J'espère que ma voix tiendra. Bonjour à tous. Lorsque je suis monté pour mettre mes papiers sur l'estrade, j'ai vu poser ici le papier de Sigère, avec le titre de son introduction, Ebenezer. Et j'ai sous les yeux le titre de ce que j'ai prévu de partager avec vous, Ebenezer. Alors, il y a plus que des convergences. Ça, on l'a constaté souvent. Cette fois-ci, c'est carrément la même chose. Mais c'est très bien. Merci, Sigère. Mais je me propose d'élargir un petit peu le propos, parce qu'effectivement, on peut difficilement échapper au fait que, parvenu au dernier dimanche de l'année, nous ayons envie de parler un petit peu de ces repères que nous avons dans le temps et qui marquent notre histoire, notre parcours. Mais c'est vrai qu'il y a plus que des convergences, j'avais un peu les mêmes questions que lui. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir des monuments, des pierres dressées ainsi pour que nous fassions mémoire, pour que nous puissions nous souvenir des événements? Alors, je vais vous proposer un petit parcours et nous aboutirons aussi à Ebenezer. Mais le parcours que je vous propose commencera un peu plus tôt que ce qui est raconté dans le premier livre de Samuel. Nous allons voir quelques éléments du parcours du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament pour considérer quelques-unes de ces pierres de la mémoire, de ces monuments, de ces pierres dressées pour marquer des lieux et des événements qui ont compté dans l'histoire. Et le premier des récits que je voudrais vous lire ce matin et brièvement commenter, je le trouve dans le livre de Josué. Josué, et je commence ma lecture à partir de la fin du chapitre 3. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent dans le lit desséché au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec. Ils s'y tinrent fermement jusqu'à ce que toute la nation eût achevé la traversée. Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Choisissez parmi le peuple 12 hommes, un par tribu, et demandez-leur d'aller chercher 12 pierres au milieu du lit du fleuve, à l'endroit où les prêtres se sont arrêtés, et de les apporter à l'endroit où vous camperez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un par tribu, et il leur dit, « Passez devant le coffre de l'Éternel, votre Dieu, et allez au milieu du Jourdain, que chacun de vous y ramasse une pierre et la charge sur son épaule pour qu'il y en ait une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres resteront comme un signe au milieu de vous. Lorsque, par la suite, vos fils vous demanderont ce que ces pierres signifient pour vous, vous leur répondrez, « Les eaux du Jourdain ont été coupées en deux devant le coffre de l'Alliance de l'Éternel lorsqu'il a traversé le fleuve. Ces pierres servent de mémorial, rappelant pour toujours aux Israélites que les eaux du Jourdain ont été coupées en deux. » Et je prends ma lecture un peu plus loin, au verset 20. « C'est à Gilgal que Josué fit ériger les 12 pierres ramassées dans le lit du Jourdain. Puis il dit aux Israélites, « Lorsque plus tard, vos descendants demanderont à leur père ce que sont ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain à pied sec, parce que l'Éternel, votre Dieu, a asséché le lit du fleuve devant vous jusqu'à ce que vous l'ayez traversé, tout comme il avait asséché la mer Rouge ou la mer des Roseaux devant nous pour que nous la traversions. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien grande est sa puissance et pour que vous-même, vous révériez l'Éternel, votre Dieu, pour toujours. Les 12 pierres du Jourdain. Et en même temps, l'évocation de deux passages, deux événements marquants dans la marche du peuple. Le premier, la traversée de la mer Rouge à la sortie de l'Égypte. Le second, la traversée du Jourdain à l'entrée dans la terre promise. Entre les deux événements, les 40 années de marche dans le désert. Le mémorial des 12 pierres du Jourdain relie les deux événements. Chacun a fait l'objet d'un miracle de la part de Dieu. Le franchissement à pied sec d'un bras de la mer Rouge et le franchissement à pied sec du fleuve le Jourdain. Une frontière autrement infranchissable a été chaque fois traversée. La première fois, pour signifier la sortie de l'esclavage de l'Égypte, la coupure radicale de la libération que Dieu a opérée pour son peuple par rapport à l'ancien pays et à l'ancienne vie. Les eaux se referment après le passage. Les eaux qui se referment signifient pas de retour en arrière. Cela n'empêchera pas certains du peuple de rêver de ce retour. Et Dieu le savait. Ça, c'est le premier passage. Le second, la traversée du Jourdain, signifie l'entrée dans le pays de Canaan, le pays de la promesse, le pays de la vie nouvelle. L'entrée dans le pays où coule le lait et le miel, image de la profusion, de la production du pays, de l'opulence de cette nature, le pays où coule le lait et le miel. Le pays où toutes les promesses de Dieu sont prêtes à s'accomplir. Le pays de la liberté. Le pays où est appelé à vivre le peuple de Dieu, qui est un peuple libéré. Dieu l'avait dit. C'était déjà annoncé dans le livre du Deutéronome. Moïse, accompagné des responsables d'Israël, donna au peuple les ordres suivants. Nous sommes à la fin de la période du désert, juste avant l'entrée en Canaan. Vous observerez tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Le jour où vous traverserez le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, vous érigerez de grandes pierres et vous les enduirez de chaux. Dès que vous aurez traversé le fleuve, vous inscrirez toutes les paroles de cette loi sur ces pierres. Ainsi, vous entrerez dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, un pays où ruisselle le lait et le miel, comme l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous l'a promis. Après le passage du Jourdain, vous dresserez ces pierres sur le mont Ébal, comme je vous le commande aujourd'hui, et vous les enduirez de chaux. Au même endroit, vous construirez un autel à l'Éternel, votre Dieu, avec des pierres qu'aucun ciseau de fer n'aura encore touchées. C'est en pierre brute que vous bâtirez l'autel de l'Éternel, votre Dieu, et vous lui offrirez sur cet autel des holocaustes ainsi que des sacrifices de communion. Vous mangerez ces derniers sur place et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Puis, vous graverez sur les pierres, en caractère bien lisible, toutes les paroles de cette loi. Vous graverez sur les pierres, en caractère bien visible, toutes les paroles de cette loi. Nous y sommes. Et nous avons vu, en plus, une mention répétée, qui est à mes yeux extrêmement importante. Ce peuple est appelé à vivre un peuple libéré. Et pour lui, cette expression a une signification très précise. C'est un peuple qui est appelé à vivre suivant tous les préceptes de la loi de Dieu. C'est là la définition de la vraie liberté. Et deux fois dans le passage de Josué 8, nous avons vu cette mention. Lorsque vos fils vous demanderont quelle est la signification de ces pierres, deux fois c'est mentionné. Vous leur direz votre histoire, vous leur direz votre témoignage, vous leur direz ce que Dieu a fait pour vous. Nous étions esclaves en Égypte et Dieu nous a fait sortir de l'esclavage pour nous amener dans le pays de la promesse. Quelle est la signification de ces pierres? Nous nous posions la question et nous avons ici la réponse. C'est le mémorial qui permet de se souvenir de ce que Dieu a fait. Et le peuple a besoin d'éléments de cette nature pour que le souvenir lui revienne. Parce que le peuple, comme nous, est porté à l'oubli. Les pierres dressées à Gilgal sont le signe, le mémorial, le souvenir, et sont aussi le lieu de l'instruction. Lorsque vos enfants vous demanderont, vous leur expliquerez. Vous leur expliquerez, et en faisant cela, en expliquant à vos enfants, vous referez toute l'histoire, vous leur raconterez tout le parcours, et vous leur direz surtout qui est Dieu et quel est le Dieu qui les a et qui nous a libérés. C'est essentiel. Cette transmission de génération en génération du témoignage de ce qu'est le Dieu d'Israël, de qui est le Dieu d'Israël et de ce qu'il a fait pour son peuple. C'est un appel à la fois, bien entendu, à la fois vécu par les parents, à la fois enseigné et manifesté dans le concret de la vie à leurs enfants. Et c'est aussi un appel à la cohérence, parce que lorsque l'Israélite, à la question de ses enfants, sera amené à raconter l'histoire et à dire ce que Dieu a fait, il sera mis en présence de son propre comportement à lui, et ceux qui auront eu un comportement qui n'aura pas honoré l'Éternel seront amenés à le reconnaître. C'est un appel à la cohérence qui peut être aussi, dans certains cas, un appel à la repentance. Et lorsque l'Israélite devra reconnaître honnêtement qu'il a eu des comportements contraires à la loi de Dieu, il devra, en témoignant de ce que Dieu a fait pour lui devant les pierres de Gilgal, avouer, reconnaître et se repentir d'avoir péché contre l'Éternel. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce mouvement du cœur. Mais déjà, ici, reconnaissons l'importance de ces deux passages liés au moment du passage du Jourdain. Les pierres rappellent, d'une part, la première des traversées, celle de la mer Rouge, qui est la sortie de l'esclavage, et la deuxième, qui est l'entrée en Canaan, l'entrée dans le pays de la promesse. Double franchissement de frontières, double passage. Double rappel pour nous aussi et pour tous les participants par la foi au peuple de Dieu dans tous les âges, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Lorsque nous faisons mémoire de ce que Dieu a fait pour nous, nous faisons mémoire à la fois de la libération du péché et de l'entrée dans le pays où toutes les promesses sont prêtes à se réaliser. N'oublions jamais la signification de la mémoire. Nous allons, à la fin du culte, y participer par le partage de la scène. Sortie du pays d'Égypte, délivrance de l'esclavage du péché et entrée dans le pays de la promesse, entrée dans le pays où toutes les promesses de Dieu sont prêtes à se réaliser. « J'aborde un autre élément dans ce parcours des pierres. L'autre élément, c'est celui que nous avons découvert aussi dans le passage de Josué. C'est le fait que les paroles de Dieu sont gravées aussi dans le cas des pierres entre Gilgal et Sichem, les paroles de la loi de Dieu et les paroles de l'histoire du peuple sont gravées sur les pierres. C'est la parole écrite. Et cette parole écrite, nous allons en retrouver quelques autres éléments, toujours dans le livre de Josué, un peu plus loin, au chapitre 24. Je lis avec vous quelques versets. Maintenant donc, dit Josué, respectez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendraient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et rendez un culte à l'Éternel seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Auquel des dieux vous voulez rendre un culte? Ceux de vos ancêtres, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays? Quant à moi, dit Josué à la fin de sa vie, moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour adorer d'autres dieux. Car c'est l'Éternel notre Dieu qui nous a fait sortir, nous et nos ancêtres d'Égypte, le pays où nous étions esclaves. Il a accompli sous nos yeux des signes extraordinaires. Il nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples dont nous avons traversé le territoire. C'est l'Éternel qui a chassé devant nous tous ces peuples, et en particulier les Amoréens qui habitaient la contrée. Oui, nous aussi, nous voulons adorer l'Éternel, car il est notre Dieu. Alors Josué dit au peuple, « Vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous pour vous faire du mal. Après vous avoir fait tant de bien, il vous consumera. Non, répondit le peuple, c'est bien l'Éternel que nous voulons adorer. Josué reprit, vous êtes vous-même témoin contre vous que vous avez vous-même choisi l'Éternel pour l'adorer. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Dans ce cas, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent encore au milieu de vous et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple répondit, nous adorerons l'Éternel, notre Dieu, et nous lui obéirons. Quel engagement! Double engagement! Engagement de Dieu envers son peuple. Paroles gravées qui sont la loi de Dieu pour conduire le peuple. Et puis, témoignage affirmé à plusieurs reprises, comme nous venons de le lire, le peuple affirme qu'il veut adorer l'Éternel et le servir. Engagement de Dieu envers son peuple et du peuple envers son Dieu. Et la pierre est là, comme témoin des paroles de Dieu pour le peuple et des paroles du peuple pour Dieu, un engagement réciproque, une alliance, un souvenir, un mémorial. Il y a de la force dans ces éléments. Bien sûr, comme nous connaissons l'histoire, nous connaissons aussi la fragilité des promesses humaines, même lorsqu'elles sont faites dans la sincérité, c'est vrai. Et à bien des reprises, il faudra revenir sur cette réalité. Mais elle a existé. Elle a existé. Et au moment où le peuple a prononcé ces paroles, il y a eu cet engagement qui a été concrétisé et dont les pierres sont les témoins. Engagement du peuple envers son Dieu et de Dieu envers son peuple. Et j'en viens à Ebenezer. Nous avons lu le texte, c'est donc pas la peine que je relise ce que si j'ai relu tout à l'heure dans la première lettre de Samuel, le premier livre, pardon, de Samuel. Nous sommes à la fin de la période des juges, une période qui a duré 300 ans environ, entre à peu près l'an 1400 avant Jésus-Christ et l'an 1100 avant Jésus-Christ. Et Samuel est le dernier des juges. Ce livre des juges raconte les infidélités répétées du peuple de Dieu, qui, lorsqu'il s'est trouvé dans la paix, dans l'abondance, a oublié l'Éternel et s'est laissé aller à adorer d'autres dieux. Dieu les a châtiés, le peuple s'est repenti et Dieu leur a envoyé un libérateur, ce qu'on a appelé les juges, les chefs du peuple. Infidélité du peuple, fidélité de Dieu. Et à la fin de cette période, même l'arche de l'Alliance, a été emportée chez les Philistins. Et puis, il y a eu des gros problèmes chez les Philistins, parce qu'il y avait cette arche de l'Alliance qui avait été amenée loin de son pays. Et donc, les Philistins eux-mêmes ont décidé de renvoyer l'arche de l'Alliance vers le peuple, vers le pays du peuple d'Israël. Et c'est le retour de l'arche. Elle arrive à Kiriath et Yarim. Je lis quand même quelques versets dans 1 Samuel 7, juste avant ce qui était cité tout à l'heure. Les gens de Kiriath et Yarim vinrent reprendre l'arche ou le coffre de l'Éternel et le rapportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Ils établirent son fils Éléazar comme gardien du coffre de l'Éternel. 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre avait été déposé à Kiriath Yearim. L'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. Alors Samuel dit à tous les Israélites, « Si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel et rendez-lui un culte à lui seul. Alors il vous délivrera des Philistins. » Les Israélites firent disparaître de chez eux les Baals et les Astarté et ils ne rendirent plus de culte que à l'Éternel. Samuel leur dit alors, « Assemblez tout Israël à Mitzpah. « Je prierai l'Éternel pour vous. » Ils s'assemblèrent à Mitzpah, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent, « Nous avons péché contre l'Éternel. » C'est là, à Mitzpah, que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. Et après, c'est donc la délivrance que Dieu accorde et les pierres dressées par Samuel pour qu'elles servent de mémorial de ce retour du peuple à Dieu. Ebenezer, ce sont les pierres du retour du peuple dans la repentance, la confession des péchés et la prière. Cette attitude du peuple est différente de celle que nous avons repérée précédemment dans le chapitre 24 de Josué. Ce n'est pas que la détermination à suivre l'Éternel, que nous avons bien souligné tout à l'heure, soit mauvaise en elle-même, mais Josué, qui était plus réaliste que le peuple, leur a dit « Vous n'aurez pas la force, vous n'aurez pas le courage, vous n'aurez pas la persévérance pour tenir. » Et c'est malheureusement ce qui est arrivé. Mais ils avaient quand même pris cet engagement. Et maintenant, il y a un retour. Dans le Nouveau Testament, nous voyons un peu le même mouvement. Hein. Quand Pierre a voulu défendre Jésus à Gethsémané, Et quand il a dit « Quand tu serais une occasion de chute pour tous les autres, tu ne seras jamais pour moi », Jésus lui a dit « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois. » Le peuple revient dans la repentance et Samuel prie pour le peuple et Dieu accorde la délivrance et voilà un moment important dans l'histoire du peuple. Eben Ezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Cette pierre dressée, c'est la pierre du secours, c'est la signification d'Eben Ezer. Dieu nous a secourus contre nos ennemis. Dieu nous a secourus malgré nos infidélités. Dieu, on peut toujours le trouver et on peut toujours le retrouver lorsqu'on revient à lui dans la repentance et dans la prière. Et après cet événement, le peuple a connu la paix. Alors je voudrais, en dernier propos de ce que j'ai prévu de partager avec vous ce matin, faire de cette pierre d'Ébénézer comme un résumé de toutes les étapes précédentes et en faire comme une image de la vie du peuple avec Dieu dans ce qu'il y a de positif, de ce qu'il a adopté de ses engagements et dans ce qu'il a de négatif lorsqu'il s'est égaré. Ébénézer résume toutes les étapes précédente. La sortie d'Égypte, la délivrance de l'esclavage, le peuple libéré. L'entrée en Canaan, le pays de la promesse, le pays de la liberté. L'alliance avec le peuple et les engagements gravés sur la pierre. La loi de Dieu, le guide pour son peuple. Et les paroles d'engagement prononcées à cette occasion par le peuple à l'égard de son Dieu. Mais le peuple aura toujours, avec ses pierres, devant les yeux, cette loi qui doit être respectée et qui est le code de sa liberté. Et puis l'histoire des infidélités de ce peuple. Et malgré ces infidélités, la patience et la persévérance de Dieu à être toujours là, prêt à le délivrer lorsque le peuple revient à lui. Et Ébénézer, le retour à Dieu dans la repentance, la foi et la prière. Voilà un parcours qui éclaire tout le chemin de la foi avec Dieu. Et voilà un parcours qui peut aussi éclairer notre chemin. Quelles sont pour nous les étapes? Quels sont pour nous les événements marquants, les signes? Quels sont nos repères? Souviens-toi, souvenons-nous. Mais notre mémoire est sélective. Nous avons des dates qui marquent nos parcours, nos histoires personnelles ou communautaires. Nous avons parfois dans nos Bibles des signets, en tout cas on le faisait autrefois, des petits signets qu'on mettait dans des passages qui ont été importants à certains moments de notre vie, et qui nous ont tout particulièrement parlé, éclairé, ramené peut-être, lorsque nous avions besoin d'être ramenés. L'importance en tout cas, certaine, de se souvenir des actions de Dieu en notre faveur. Et quand nous nous proposons ce matin de faire de notre constatation en fin d'année, de notre parcours et de notre vie, et que nous prononçons devant Dieu la parole d'Ébénézer, et que nous disons ensemble jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, nous savons qu'il nous a secourus contre l'adversité, contre les découragements, qu'il nous a secourus aussi contre nous-mêmes, parfois, lorsque nous avions besoin d'être ramenés. Ramenés à l'Éternel. Secourus contre nous-mêmes et contre nos égarements. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors nous voulons continuer à voir Dieu agir dans nos vies et à le louer pour cela. C'est essentiel de se souvenir des actions de notre Dieu en notre faveur, surtout au moment où nous sommes dans la difficulté, l'épreuve et la souffrance, où nous voudrions voir Dieu agir et où nous ne le voyons pas, ou en tout cas, où nous ne le voyons pas agir comme nous aimerions ou comme nous imaginons. Parce qu'il faut aussi que nous nous souvenions du fait que nous ne voyons pas tout ce que Dieu fait et que Dieu agit même lorsque nous ne le voyons pas. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire et dans lequel il t'a accompagné. Souvenez-vous des paroles du Seigneur. C'est aussi une parole qui revient souvent dans la bouche de Jésus. Souviens-toi, souvenez-vous, lorsque il était avec les disciples dans la barque sur le lac et qu'il leur a dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens ». Les disciples ont discuté entre eux en se disant « C'est parce que nous avons oublié de prendre des pains ». Et Jésus leur a dit « Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains et des 2 poissons ? Et puis l'autre épisode, je ne me rappelle plus exactement combien il y en avait, mais il y en a eu plusieurs de ces épisodes de la multiplication des pains. Ne vous souvenez-vous pas ? Et n'avez-vous pas de mémoire pour ne pas vous laisser simplement à considérer que je vous fais un reproche déguisé ? Parce que vous avez oublié de prendre des pains. Ça, c'est pas grave. Quand il leur a dit ça, ils se sont enfin souvenus qu'ils avaient été les témoins de plusieurs multiplications des pains et des poissons. Je vous ai dit ces choses, dit Jésus à la fin des entretiens avec ses disciples que nous rapporte l'évangile de Jean. Je vous ai dit ces choses. Et cette expression revient souvent dans les chapitres 13 à 16 de l'évangile de Jean. Je vous ai dit ces choses afin que lorsqu'elles arriveront, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je vous ai dit ces choses parce que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des difficultés, mais j'ai vaincu le monde. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit. Souvenons-nous de tout ce que Jésus nous a dit et de tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, en partageant ensemble le pain et le vin, dans ce grand mémorial de la scène qui nous a été donné justement pour que nous nous souvenions. Et pour nous préparer à partager le pain et le vin, je vous invite à chanter « Rends-nous le pain de vie, que ta bonté Seigneur nous rassasie ». Levons-nous pour chanter ce cantique.